Donc, comme je viens de dire, on va faire une, c'est pas vraiment un parcours, on va faire petit à petit l'épître aux Romains. Donc, aujourd'hui, c'est une introduction, mais une introduction et une introduction, parce que je vais faire une introduction globale, et après, vraiment globale, après je vais faire un petit résumé de chaque chapitre, mais aujourd'hui je fais chapitre 1 à 8, et la semaine prochaine je ferai les chapitres 9 à 16. Donc je voudrais lire dans Romains, chapitre 1, juste le début de l'épître, Romains chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Encore, l'évangile concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, donc David qui était juif et Jésus qui est né parmi les juifs, déclaré, donc Jésus-Christ, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui nous avons, par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Bon, c'est important parce que cet épître est écrit aux païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc il parle aux païens qui se sont convertis à Jésus-Christ, mais il s'adresse à ceux-là qui se trouvent à Rome. Alors, on pense que l'épître aux Romains était écrit vers l'année 56, juste après probablement le deuxième épître aux Corinthiens. Donc, dans les deux, Paul parle de ce don qu'il apporte à Jérusalem. Et comme vous savez, quand il est arrivé à Jérusalem, au début, tout s'est bien passé. Il a fait le don. Et puis, il était arrêté. Et il était passé à Césarée. Et puis, par la suite, il est arrivé à Rome. Mais pas comme un homme libre, mais comme un prisonnier, où il a passé 2 ans dans une maison louée, en train d'évangéliser tout ce qu'il pouvait, et juste à la fin du livre des Actes. D'accord? Donc, c'est aux environs l'année 56, donc c'est 11 ans après le Concile de Jérusalem. Donc, là, pour l'instant, je vais faire simplement ce genre de résumé par les parties du livre, chapitre 1 à 3. Dans Romains chapitre 1 à 3, on voit que Dieu a créé un monde parfait. Mais voilà, on ne vit pas dans ce monde parfait. Donc, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, la réponse, c'est que le premier homme a péché, faisant entrer dans notre existence la mort et la misère, que nous connaissons tous. Et donc, cela a gâché la création d'origine. Dans son péché, l'humanité, donc il dit l'homme, mais là, dans le texte, il veut dire l'homme, c'est homme et femme, c'est l'humanité, s'est éloigné volontairement de Dieu. À cause du péché, chacun, moi et vous tous, chacun est né sans vie spirituelle. Et à cause du péché, chacun est condamné à la mort spirituelle, physique et éternelle. Le seul remède, le seul espoir, c'est l'évangile de de Jésus-Christ. Donc, il est intéressant, mais Paul dit radicalement aux païens que voilà dans les cas que vous vous trouvez. Dans les chapitres 4 à 6, on voit que, et ça touche aussi chapitre 3, on voit qu'à travers l'histoire, et en particulier dans les Écritures, Dieu s'est révélé à l'homme à l'homme pécheur, je veux dire, pour illuminer le problème du péché et pour montrer le chemin du salut. Donc on a l'exemple d'Abraham, le non-juif. Il est donné comme exemple de foi. Il était sauvé par la foi. Après, on a l'exemple de David, le juif, hein, grande croix des juifs. Lui, il est donné comme exemple du pardon. Abraham est donné comme exemple du salut par la foi, sans la loi, parce qu'il a vécu presque 500 ans avant la loi, et aussi sans les œuvres. Tous ont péché, donc tous sont condamnés. Mais grâce à l'œuvre de rédemption par Jésus-Christ, eh bien le salut est offert à tous. Puis dans les chapitres 7 et 8, on voit bien que les croyants en Jésus-Christ sont sauvés maintenant et pour l'éternité. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. Pourtant, pendant notre vie terrestre, nous restons limités à notre corps humain avec nos faiblesses, tentations, faillites, péchés, etc. Donc, on doit revenir voir que Dieu, donc c'est à la gloire de Dieu d'ailleurs, que l'évangile de son Fils est efficace pour nous purifier de tout péché. Non pas seulement nos péchés du passé, mais aussi nos péchés à l'avenir. Et c'est ainsi que Dieu donne aux croyants, c'est pas nous qui nous donne cette assurance, mais c'est Dieu dans sa parole, dans la parole, il donne cette assurance aux croyants que absolument rien ne peut désengager l'amour de Dieu envers les croyants et ses promesses du salut. Dans les chapitres 9 à 11, dans ces trois chapitres, c'est une... Bon, là c'est vraiment le bonheur de l'Évangile, chapitre 1 à 8. Mais maintenant, chapitre 9 à 11, donc tout ça écrit aux païens convertis à Jésus. Mais dans ces trois chapitres, Paul va adresser le sujet des Juifs. Parce que les Juifs, les païens, voyaient bien que jusqu'à un certain moment, Dieu agissait avec les Juifs, mais maintenant, il allait dans le monde entier. Et donc, on avait cette question... de pourquoi ou est-ce vrai que Dieu a rejeté le peuple d'Israël. Donc Paul revient sur le sujet des Juifs pour expliquer aux païens, et peut-être pour rassurer les Juifs aussi. Donc la question, Dieu a-t-il promis que les Juifs régneront sur la terre avec le Messie? Et Dieu a-t-il promis que tous les Juifs seront sauvés? Donc c'est une question avec deux parties, ou deux questions. Donc, premièrement, non. Dieu n'a pas promis que tous les Juifs seraient sauvés, mais seulement que tous les Juifs croyants seront sauvés. Le salut est toujours par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être sauvé. Puis, oui, Dieu a promis le royaume messianique, le futur royaume de Christ, comme le dernier chapitre de l'histoire de notre planète. Mais avant d'accomplir ces promesses-là, Dieu accorde un temps. Donc, je parle de notre temps, notre économie, notre dispensation actuelle, pour annoncer l'Évangile à travers le monde, pour que tous les non-juifs aient la possibilité d'être sauvés. Et nous sommes reconnaissants que nous tombons dans cette catégorie on a la possibilité et nous avons cru en Jésus-Christ. Alors Dieu connaît toutes choses. Donc on a un mot pour dire que Dieu connaît les choses d'avance, on dit la préscience de Dieu. Dieu connaît toutes choses d'avance. Et donc Dieu connaît déjà tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ et il connaît qui sera le dernier, le tout dernier converti parmi les nations. Dieu connaît toujours qui est cette personne-là. Quand le dernier païen, quand le dernier non-juif de notre dispensation sera sauvé, Dieu accomplira les sept dernières années de la dispensation des Juifs sous la loi, les sept années d'horrible tribulation pendant le règne de l'Antichrist. Après les sept ans, bon, par la suite, enfin, Dieu instaurera le royaume millénaire. Donc ces trois chapitres focalisés sur cette question, qu'est-ce qui va venir du peuple juif? Okay? Après, dans les chapitres 12 à 15, on vient de donner donc cette lumière de clarification sur l'avenir du peuple juif, mais ça ne change rien pour nous aujourd'hui. De savoir que Dieu va travailler de nouveau avec les Juifs à un certain moment dans l'avenir, ça ne change rien de notre vie aujourd'hui. Nous devons aujourd'hui pratiquer ce que la Bible dit pour les chrétiens. Donc, le reste du livre, c'est assez pratique. Toute personne qui se réclame du nom de Jésus-Christ devrait vivre en tant que disciple, ou j'aime bien aussi dans le mot laïque, apprenti du Seigneur Jésus-Christ, sur la base de la révélation du Nouveau Testament. C'est pour cela que Dieu a révélé le Nouveau Testament, pour que les chrétiens soient chrétiens. Nous sommes, donc dans ces chapitres-là, nous voyons que nous sommes sauvés pour servir Dieu comme des sacrifices vivants. Nous sommes sauvés pour servir les uns les autres, tout en reconnaissant le fait que chacun a ses faiblesses. Chacun de nous a des problèmes. Et nous sommes sauvés pour aimer les uns les autres. Et puis, dans le tout dernier chapitre, Paul termine avec quelques exhortations à la vigilance et quelques salutations envers les plusieurs chrétiens qui vivaient déjà à Rome. Donc, il est à noter que l'apôtre Pierre n'est pas dans cette liste, dans les salutations. Paul n'a pas dit « Et saluez l'apôtre Pierre », parce que Pierre n'était pas là. Donc, Pierre n'était jamais à Rome avant. Ce n'est pas Pierre qui a commencé l'église de Rome. Il est plutôt probable que l'évangile est arrivé à Rome par le biais des convertis du jour de la Pentecôte, parce qu'il y avait des gens de Rome déjà à Jérusalem ce jour-là. Et parmi les convertis qui étaient là ce jour-là, ils sont probablement rentrés chez eux à Rome et ils ont commencé leur église toute simple. Donc voilà, c'est un grand résumé du livre. OK? Maintenant, on va entrer dans quelques détails. Je vais lire juste sélectionner un ou des fois quelques versets dans chaque chapitre pour lire avant. Ce n'est pas pour dire que ce verset veut dire ces choses-là, mais c'est simplement un verset à remarquer dans chaque chapitre. Donc, dans Romains chapitre 1, nous allons voir le verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Paul s'adresse aux païens qui se sont convertis à Jésus-Christ. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas les juifs parmi les chrétiens à Rome, ce n'est pas ça. Mais il s'adresse à cette église comme une église de convertis païens. Donc, je vais dire comme ça. Comme l'épître aux Hébreux explique l'Évangile aux Juifs, eh bien, l'épître aux Romains explique l'Évangile aux non-Juifs. L'évangile est à proclamer à toutes les nations. Ce n'est pas simplement pour nous, on va dire. C'est pour tout le monde. Donc, dans le chapitre 1, Paul commence son explication en déclarant à haute voix le problème. Donc, on n'a pas la même façon de faire que Paul, mais vous imaginez que, voilà, je garde personne et dis, voilà ton problème. Vous voyez, c'est radical, mais voilà. Paul dit, les nations se sont détournées volontairement de Dieu. Premièrement, l'humanité s'est éloignée dans ses pensées. Parce que ça commence là. Et par la suite, l'humanité s'est éloignée dans ses pratiques. Et dans le même sens qu'un mensonge entraîne un autre, eh bien, un péché entraîne un autre. Et donc, la Bible dit ici dans Romains chapitre 1 que Dieu laisse agir et que par la suite, l'homme récolte les conséquences. Je veux faire ça! Ben, vas-y, fais ça. Mais tout va en baver. Ouais. Personne ne peut quitter cet engrenage sans déjà un changement de pensée. La repentance est un changement de pensée vis-à-vis de Dieu et nos péchés qui se manifestent premièrement par la foi en Jésus-Christ et qui entraîne par la suite un changement de comportement. Il ne faut pas mettre les deux à l'inverse. On ne peut pas œuvrer notre chemin jusqu'à Dieu. Faisons les œuvres et « Ah, oh, je suis arrivé, je vais croire maintenant. » Non, on croit en premier, puis Dieu commence à changer nos vies. Maintenant, chapitre 2. Chapitre 2, nous allons lire le verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés, donc condamnés, par la loi. Le point dans le chapitre 2, c'est que tout le monde est coupable du péché. Aussi bien le juif que le païen. Les deux sont coupables. Les païens ne savaient pas, mais ils savaient quand même. Et les juifs pouvaient le lire. Il fallait pas le faire, mais ils le faisaient. Tous les deux sont coupables. Au jour du jugement, ce sera la conscience de chacun qui va déclarer la culpabilité de chacun. Ce n'est pas ma conscience qui va vous culpabiliser. C'est votre conscience qui va vous culpabiliser. Alors, dans le chapitre, il dit que les Juifs connaissaient la loi et utilisaient même la loi pour montrer aux autres leur culpabilité. Oh, quelle joie de montrer les fautes des autres, n'est-ce pas? Pourtant, les Juifs transgressaient eux-mêmes la loi. Ils étaient quand même coupables, tout en connaissant ce que Dieu voulait. La connaissance de la loi ne sauve personne. Ce n'est pas parce qu'on a une Bible à la maison, dans la bibliothèque, qu'on va être au ciel. Il faut l'ouvrir. Il faut le lire, il faut croire. Mais si on lit, on apprend les choses, mais on n'a pas confiance, on n'est pas mieux que les Juifs dont on parle ici. C'est la pratique de la loi, la pratique de la volonté de Dieu qui compte. Et je pense qu'on peut lire dans 1 Jean, si je ne me trompe pas le chiffre, 1 Jean, chapitre 2, et dans le verset 17. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce n'est pas pour dire qu'on va gagner le ciel par nos œuvres, mais c'est pour dire que Le chrétien qui marche avec Dieu va faire la volonté de Dieu. Et puis dans le chapitre 3, nous allons lire versets 21-22. Romains chapitre 3, versets 21-22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc, quand on lit le chapitre, on voit qu'il y a quand même un avantage aux Juifs. Les Juifs avaient justement la parole de Dieu. Dieu a révélé sa volonté à l'humanité en se servant du peuple juif. Et donc les Juifs, en premier, pouvaient savoir ce que Dieu voulait, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Tandis que les païens, et on va voir ça plus tard, restaient sans intelligence, c'est-à-dire ils ne connaissaient pas ce que Dieu voulait. Vous demandez à n'importe qui, ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu veut. On va savoir ce que Dieu veut parce qu'on vient à la parole de Dieu. Donc Dieu a donné cet avantage aux Juifs parce qu'il les a éclairés par sa parole. Alors on se pose la question, pourquoi Dieu s'est-il donné la peine de révéler les Écritures à l'humanité par le biais d'Israël? Et la réponse est que Dieu voulait justifier les pécheurs. Il fallait, pour qu'ils sauvent les gens, qu'ils puissent communiquer le problème et la solution. Donc, il a choisi ce peuple pour communiquer le message du salut, le message de la grâce, de la foi, et donc par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme j'ai dit, les païens pêchent par ignorance, tandis que les juifs pêchent en dépit de leur connaissance. Et ça peut être nous aussi, hein? Parce que nous, on ne va pas dire, voilà les juifs là-bas, hein? Nous, on connaît bien la Bible. Et si on pêche, c'est parce qu'on pêche en dépit de notre connaissance, n'est-ce pas? Les païens n'avaient pas cette révélation écrite, pourtant, juifs et non-juifs, tous les deux, chapitre 3 dit, sont pécheurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant au chapitre 4, Romains chapitre 4, on va lire verset 13 et puis verset 23, 24 et 25. Romains chapitre 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Au verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui, donc de Abraham seul, qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est-à-dire, quand Moïse a écrit ces mots-là concernant Abraham 500 ans auparavant, okay, ou 400 ans auparavant, ce n'était pas pour Abraham que ça a été enregistré. C'est pour nous que la parole est écrite, les gens par la suite et à l'avenir. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, la justice lui fut imputée. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, on a dans ce chapitre les deux exemples d'Abraham et de David. J'ai déjà mentionné ça rapidement tout à l'heure. Abraham, encore non-juif, était justifié par la foi. Oh, quelle honte pour les juifs de penser qu'Abraham n'avait jamais été un non-juif. Eh bien oui, il était païen, fils d'un idolâtre. Et puis David, un juif, qui était pardonné par la grâce. Le salut est une grâce de Dieu accordé à toute personne, tout pécheur, mais attention, elle s'obtient par la foi. On ne peut pas la payer, on ne peut pas faire les œuvres, on ne peut pas le mériter. Paul montre ici que la foi précède historiquement la loi de Moïse et donc est bien plus importante. Puis il déclare que c'est par la foi en Jésus-Christ que le pécheur est justifié, que le pécheur est sauvé. Au chapitre 5, nous allons lire versets 6, 8 et 9. Chapitre 5. Alors, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, nous les pécheurs. Hein? En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Okay? C'est-à-dire, Dieu n'a pas envoyé son fils pour perdre les croyants. Il a envoyé son fils pour sauver les croyants. Okay? Si Dieu nous a aimés à tel point, il est sûr de nous sauver. C'est une rassurance pour nous. Donc, dans ce chapitre, et j'ai sélectionné ces versets exprès, mais j'ai d'autres versets dans le chapitre qui sont mes préférés, et j'ai pas donné ça aujourd'hui. Mais j'ai choisi ces versets exprès aujourd'hui comme pour le message. Mais on verra les autres versets au fur et à mesure. Par le salut, donc chapitre 5, par le salut, le croyant est désormais en paix avec Dieu. Le croyant est en paix avec Dieu. Mais attention, la paix est une grâce de Dieu par la foi. Le salut par la foi entraîne une vie par la foi. Donc si on croit en Jésus et on est sauvé, et si on ne se permet pas de vivre cette vie chrétienne qui est maintenant en nous, eh bien on ne va pas vivre en paix avec Dieu. On a la paix avec Dieu, mais on n'est pas en paix avec Dieu. On a cette conscience qui est un peu trouble après. Et on va voir ça par la suite. La foi, c'est... Quand on dit la foi, je reviens. Donc, le salut par la foi entraîne une vie par la foi. La foi construit l'espoir. Donc, on a la foi et la foi construit cet espoir. Donc, la foi, c'est la confiance que nous avons dans la véracité que dit Dieu dans la parole. Il a dit, je crois. Et l'espoir, c'est ce que vous attendez de la part de Dieu. Puisque Dieu a dit ça, eh bien, dans ma relation avec Dieu, j'attends ceci ou cela. Okay? Puisque Dieu nous a sauvés dans nos péchés, quand nous étions encore pécheurs, par la mort de son Fils, il nous sauvera certainement, en dépit de nos péchés à travers nos vies. Parce que vous allez pécher, et je vais pécher. Et on ne va pas perdre notre salut. Le péché est défini au chapitre 1. On n'a pas lu ça tout à l'heure. Mais toutes ces choses horribles qui sont mentionnées dans ce chapitre méritent la condamnation de Dieu. Mais je vais vous dire quand même de faire attention. N'ayez pas l'orgueil de penser que vous êtes à l'abri de tel ou tel péché. Personne n'est à l'abri. On peut tous pécher. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les hommes. Pourquoi les chrétiens donc vont faire ça, ceci ou cela? La mort est la conséquence du péché. Adam a péché, son péché a été transmis à nous tous mourons, tous meurent à cause du péché. Pourtant, par la grâce de Dieu, le pardon, le salut, la vie éternelle, donc ce sont les synonymes avec des nuances, hein, est offerte, ce n'est pas donné. C'est offert à toute personne. La parole de Dieu nous dit que la grâce règne par la justice par Jésus-Christ, assurant la vie éternelle. C'est-à-dire, votre vie éternelle est assurée non par vos œuvres, non par vos mérites, mais par la grâce de Dieu. Au chapitre 6, on va lire les versets 10 et 11. Chapitre 6, verset 10. Car il est mort, donc Jésus-Christ, il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, en parlant de ces choses-là, dans le chapitre 5, on est obligé de poser des questions par la suite. La grâce d'un tel licence à pécher. Puisque Dieu m'a pardonné, est-ce possible que je puisse faire tout ce que je veux et faire tout le mal que je veux et Dieu pardonne tout? Ah, gloire à Dieu! Et la réponse est un non catégorique. La foi en Jésus-Christ condamne le péché en moi. Le croyant se considère mort à sa vie de péché et désormais vivant comme serviteur de Dieu. Le salaire que mérite le péché, c'est la mort. Comment pouvons-nous continuer à produire les œuvres dont le fruit est la mort? C'est pas logique. Par contre, le fruit de la foi en Jésus-Christ, c'est la vie chrétienne ici-bas, donc la vie de sanctification, et la vie éternelle ici-bas et auprès de Dieu pour l'éternité. Donc, je répète, la grâce n'est pas une licence à pécher, mais la grâce est la liberté de servir Dieu. Chapitre 7, donc on va voir chapitre 7 et chapitre 8, et après on va partager le repas du Seigneur. Chapitre 7, on va lire versets 21 à 23. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Okay? Donc, on vient de dire dans le chapitre 6 que la grâce n'est pas une licence à pécher. Pourtant, voilà, on pêche. Comment ça se fait? C'est ça le chapitre 7. Le chapitre 7 reprend un peu le chapitre 5 et chapitre 6. Donc, du chapitre 6, nous sommes libérés de la loi et de sa condamnation afin de servir Dieu. Du chapitre 5, nous sommes sauvés de tous nos péchés. Chapitre 6 encore, nous nous considérons morts au péché pour servir Dieu. Pourtant, et en dépit de notre bonne vouloir, nous péchons tous. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que nous avons toujours nos passions liées à notre humanité. Donc, les mots sont la chair, la nature humaine, etc. C'est notre humanité. L'ancienne nature humaine et la nouvelle nature du Saint-Esprit combattent en nous pour, chacun combat pour avoir raison de se manifester dans notre vie. Vivre pour plaire à soi-même ou vivre pour plaire à Dieu. Malheureusement, nous chutons tous tant de fois et à ce moment-là, nous nous demandons si nous sommes vraiment enfants de Dieu. Si on est vraiment enfant de Dieu, si nous pourrions, en fait, faire une telle chose. Hein? C'est ça en nous, ce conflit maintenant, quand on a péché. Donc, chapitre 8, reprend cette idée, et on va lire versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Okay? Donc, par ce chapitre 8, Dieu, il reconnaît que nous sommes toujours pécheurs. Il sait, mais il nous rassure, c'est Dieu qui nous rassure, que quoi qu'il arrive, son amour exprimé par le sacrifice de son Fils est infiniment plus puissant que tous les péchés que nous pouvons commettre. Donc, il y a une suite des choses. Dieu nous assure que le pécheur pardonné est devenu son enfant grâce à l'Évangile. Dieu nous assure que son Esprit, son Saint-Esprit, est dans le croyant pour agir en et à travers chaque croyant. Dieu nous assure que le salut des pécheurs convertis à Christ fait partie intégrale de son plan pour la création actuelle. Dieu a dû réfléchir avant de passer à l'acte de la création. Oh, l'homme va pécher, il va tout gâcher. Est-ce que ça vaut la peine? Et pour Dieu, il connaît tout, il est bien plus intelligent que nous. Eh bien, il a fait le calcul, pour lui, c'était important. Il voulait le faire, en dépit de tout ce qui allait arriver. Et puis Dieu nous assure qu'il y a un avenir glorieux pour notre planète. Tout ça, c'est dans ce chapitre 8. Et puis enfin, comme on vient de lire, Dieu nous assure que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et là, ça c'est une bonne assurance. Ça c'est... Surtout quand on a commis un péché. Et puis on se pose des questions. Ah, c'est pas possible. Non, il faut que je fasse quelque chose pour racheter ce péché-là. Eh bien non, vous ne pouvez rien faire. Il faut revenir à votre Sauveur et remercier que lui, il a quand même eu à son esprit avant la fondation du monde que dans ce moment-là, vous allez commettre tel péché. Et quand il est mort sur la croix, il est mort pour cela aussi, quand même. Donc, c'est extrêmement rassurant. Hein? Amen. Donc, je vais faire le résumé du chapitre 9 à 16. Donc, comme je viens de faire là, la semaine prochaine. Et si on a du temps, je commence à faire un commentaire sur les versets du chapitre 1 la semaine prochaine, mais je ne suis pas sûr que ça va se faire. OK.